Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end de folie. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter en direct, mais également en podcast. Je crois que vous adorez le 15 de France, ça se voit dans les chiffres. Et ben, ça tombe bien, nous allons en parler ce matin dans cette émission. Au programme justement, le 15 de France qui a battu l'Argentine hier soir pour son dernier match de l'année, son dernier match de la tournée d'automne. Êtes-vous totalement emballé par ces bleus? Ce sera la une dans quelques instants. 10h, les adieux de Rafael Nadal. C'était un peu plus tôt dans la semaine. Nous allons y revenir. On s'attendait, c'est vrai, à une semaine de folie en Espagne. Nous n'avons eu qu'une seule petite journée. Une légende peut-elle réussir sa sortie? Ce sera le bras de fer. 11h, nous ferons le bilan de la tournée du 15 de France. 3 matchs, 3 victoires. Cette tournée a-t-elle fait oublier l'été catastrophique du 15 de France, la tournée en Argentine? Et puis nous parlerons du Paris Saint-Germain également dans cette émission. Les grandes gueules du sport, je vous les présente ce matin. Elles sont belles, elles sont fraîches. Enfin, on verra ça. Les grandes gueules ce matin, une grande gueule qui colle la neige. On l'aime bien, mais pas tous les week-ends. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Ouais, elle colle un peu en plus la neige en ce moment. Mais elle va t'en coller une, tu vois.
Mais elle ne veut pas partir, hein. C'est fou. Hein. Elle tient. Hein.
Ça s'accroche. Hein. Ça s'accroche.
C'est dingue, ça, mon Chris.
Ouais, c'est toi qui as insisté pour que je sois là ce matin en plus. Ouais. Alors j'aurais pu faire la grasse mat. Hein.
Évidemment, tu étais au Stade de France hier soir, mais je me suis dit, on ne va pas faire un débriefing du 15 de France.
Mais non, mais t'as Denis avec toi, ça suffit largement.
Attends, je ne spoil pas
l'émission.
Une fois que je vais le présenter, à mon avis, il risque de partir. Une grande gueule qui, comme la neige, on l'appelle la poudreuse. Ah bah, c'est un rugbyman. Hein. Denis Charvet, salut Denis.
C'est bilan.
Ça va,
impeccable. Écoute,
c'est totalement diffamatoire. Hein,
je sais. Non, on est bien, tu vois,
on est frais comme des gardons.
On a plein d'idées dans la tête avec.
C'est de coucher tard, à mon avis.
Non, pas du tout. Non.
À la fin d'une tournée, on peut faire des croisés.
Non, c'est pas plus tard, je suis rentré chez moi, j'étais frigorifié. J'ai eu froid, c'était...
Quand tu étais avec ton joueur, j'étais sur un scooter, je te signale.
On peut citer les marques, tout ça.
Ouais.
Monsieur, mon cher Denis, est-ce qu'on peut faire des troisième mi-temps maintenant qu'on gagne 3 matchs ou pas? On peut.
Normalement, oui, on a le droit.
Oui.
Mais c'est interdit.
Oui. On verra tout ça. Hein. On mettra sur le coup nos fins limiers justement pour savoir si ça marche encore les troisième mi-temps après 3 matchs gagnés. Une grande gueule qui, comme la neige, elle est petite et parfois glaçante. Sarah Pitkovski, salut Sarah.
Bonjour à tous. Non, je suis pas glaçante.
Elle est chiante comme la braise.
Non plus. On va rester.
Ça, dans les troisième mi-temps, on peut pas non plus, Christophe. Merci
on
beaucoup.
Peut plus non plus.
Ça va, ma Sarah?
Écoute, remarquablement bien.
Oui, ouais. T'as envie d'en découdre ce matin avec les copains de rugby?
Ouais, je pense qu'on a des choses à dire.
Ouais.
On va pas.
Alors j'ai prévu une équipe, j'ai prévu 2 rugbyman, 2 tennismen.
Ouais. Hein, mais nous, on est plus fins, je crois.
Ouais.
Non, on est plus fins dans la réflexion, non?
Oui, bien sûr.
Bah oui.
À nous juger, on verra ça dans quelques instants avec le premier débat.
Mi-temps tennis. Vous êtes plus bobo que nous, quand même.
Ouais, complètement. Hein,
Le rugby aujourd'hui, c'est un peu bobo, quand même.
Et puis une grande gueule qui. Laissez-moi vous présenter quand même notre dernière grande gueule. Une grande gueule qui, comme la neige, n'a jamais gagné une finale. Julien Benetot, salut Julien.
Pourquoi la neige?
Il savait plus quoi dire.
L'humour doit être absurde, sinon
C'est complètement absurde.
Ça va, bonjour.
Ouais, content d'être avec vous.
Ouais, même avec les deux rugbyman là.
Ouais, surtout avec les rugbyman et avec Sarah, c'est bien.
T'es pas obligé de rappeler qu'il n'a pas gagné de finale, c'est méchant ou gratuit.
Mais trêve de plaisanterie, par exemple, j'ai une question sérieuse.
Voilà.
Par exemple, hier, ils n'ont pas le droit d'aller boire un verre, les mecs.
Hier soir, ils avaient droit. Fin de tournée, t'as l'autorisation de.
Mais surveillé, je crois.
C'est-à-dire que s'ils se mettent tout nus sur la rue de Rivoli.
Non, mais accompagné.
Ça me paraît.
Je crois qu'il y a quand même normal.
Ils ont des chapeaux. Ils sont ensemble. Voilà quoi.
Après,
il faut que ça reste dans. Voilà, faut pas que ça déborde comme d'habitude. Mais.
Vous avez fait la fête, vous, en Colombie?
On a eu trop le cœur à ça.
Non. Tu veux en parler de la Colombie
non
ou
plus.
Pas Non. C'était l'équipe de France de Fed Cup, voilà, qui a perdu. Voilà, comme ça, je vous donne cette information. Mais nous, on est très heureux d'être avec toi, mon cher Julien. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu nous voir dans cette émission. Tu vas voir, ça n'a pas changé. On va débuter avec ce qui s'est passé hier soir sur RMC. C'était encore une fois grandiose.
La une des grandes gueules du sport.
La mission bien finir. La tournée d'automne après 2 victoires France-Argentine. Voilà. Pour Moefana qui vient en percussion. On ouvre à nouveau peut-être l'essai. l'essai français signé Thibaut Flamand. Willy Antonio, on envoie les poids lourds, on envoie les 38 tonnes là, avec les avant. Sur les extérieurs peut-être, on ouvre un tour avec Léo Barret pour Villiers. Allez Villiers, l'essai. L'essai de Gabin Villiers qui est venu se proposer.
Juan Martin Gonzalez à nouveau, les avant, c'est pas mal. Ils ont échoué Gallo, il a échoué à 30 cm. Il a plongé, il a échoué à 30 cm maintenant. Les avant qui vont certainement repartir. Aura, là c'est bouché. Ah, est-ce qu'il ça y est, c'est essai accordé aux Argentins malgré l'effort de Julien Marchand et François Cross. Et le bilan est très positif avec ces trois victoires en taux de match à l'automne.
Pour son dernier match de l'année, le 15 de France s'est donc débarrassé du piège argentin. Une victoire 37 à 23 hier soir au Stade de France. Une deuxième période poussive, laborieuse, après un premier acte étincelant. C'est en tout cas un sans faute pour les Bleus dans cette tournée d'automne. La musique qui fout les jetons. Et cette question, êtes-vous totalement emballé par ce 15 de France? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Je suis emballé.
Êtes-vous totalement emballé par ce 15 de France, Christophe Cessieux?
Je suis totalement emballé.
Ok.
C'est mieux.
Julien Beneteau.
Je suis emballé, je suis pas totalement, mais je suis emballé.
Ok, Sarah Pitkowski.
Je suis plutôt sur le oui aussi.
Plutôt sur le oui aussi. Emballé. Denis Charvet.
Oui, mais pas totalement.
Avant de vous écouter, il y a de la nuance. Hein. Personne ne veut totalement répondre à ma question. J'ai bien compris. On va écouter.
Elle est mal posée.
Fabien Galthié.
T'as pas trouvé la bonne question.
Ouais, voilà, c'est comme ça.
Et Charles Olivon.
Pas faute d'avoir essayé.
À l'époque,
hein.
Il y avait des gens qui tenaient cette émission avec des vraies questions. Avec des vraies
questions. Bravo, Julien.
Il fatigue.
Faut que tu reviennes plus souvent, Julien.
C'est vrai. On va revenir à ce qui se faisait avant. Vous avez bien raison, les copains.
Bah, Christophe Cessieux, c'est le c'était mieux avant.
Ben oui.
Il incarne le c'était mieux avant, non?
Exactement.
Ouais. Même les deux anciens présentateurs.
C'est vrai que là, t'es mal. On va parler de rugby plus tard. C'est vrai que tu es avec Sarah et Christophe quand même. Hein. C'est vrai que c'est incroyable. Ouais. Hein. Vous étiez à ma place et tout ça. Ouais. Comme quoi, vous voyez, on peut être tout seul et bien s'en sortir. Bon, on va arrêter les
autres. Et avoir un goût douteux pour les blagues quand même.
Ouais, nous, on faisait pas les blagues comme ça. Elles étaient de bon goût.
On va écouter donc Fabien Galthié et Charles. Après cette rencontre.
Ils sont déchirés. Ce qui est important, je crois, c'est que ce qu'on a décidé de faire, ça fonctionne et que les joueurs arrivent à l'appliquer. Il n'y a pas besoin de cocher toutes les cases, mais il faut en cocher quelques-unes. La flèche du temps, elle est dans sa continuité avec les événements qu'on a rencontrés. L'équipe, elle est toujours à 80% de victoire, malgré une année 2024, avec bien sûr des imperfections, avec des scories, avec des problématiques à gérer. C'est une équipe, hein, avec des êtres humains qui ont des temps forts, des temps faibles, des blessures.
C'est sûr qu'on a dû batailler jusqu'à la dernière action. Notre défense a été, je pense, costaud aujourd'hui. On peut encore mieux faire. On s'est reposé souvent sur notre défense et après, on a bien joué certains coups. Là, c'est quand même satisfaisant parce qu'il y a eu aussi beaucoup de plaisir aujourd'hui, pour rien vous cacher. Donc voilà, c'est quand même plaisant de jouer un match comme ça. Contre une belle équipe aussi. On connaît un petit peu les mecs. Donc voilà, c'était, je pense, une soirée sympa.
Une soirée sympa, vous pouvez évidemment venir débattre avec nous. Êtes-vous totalement emballé par ce 15 de France, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio? On a entendu les Bleus, justement, ils sont pas totalement convaincus par leur prestation, ils n'ont pas coché toutes les cases, c'est ce que dit Fabien Galthié. Christophe Cessieux.
Bon, alors je sais qu'il est de bon ton d'être toujours sur la réserve, de toujours être critique à l'égard de toutes les équipes de France, mais là, franchement, moi, après trois matchs, après trois victoires, j'ai pas beaucoup de réserves à apporter aux prestations de cette équipe. On lui a demandé quoi? On lui a demandé de battre le Japon avec la manière, avec les points. Ils l'ont fait. On lui a demandé de battre les All Blacks comme ils pouvaient le faire. Eh ben, ils l'ont fait à 30-29 d'un point. On leur a demandé de battre l'Argentine qui venait de battre justement toutes les grandes équipes du Sud. Ils l'ont fait avec la manière, avec des essais. Donc, oui, franchement, tu peux faire la fine bouche. Mais moi, j'ai pas envie de faire la fine bouche ce matin. J'ai envie de saluer l'exploit de cette équipe de France qui a réalisé une tournée de novembre pleine. Alors évidemment, il y a toujours des petites scores. On rappelle que les équipes du Sud, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, étaient ensemble depuis 6 mois. Nous, ça fait 3 semaines. Il y a eu 3 semaines de préparation avant ces matchs. Avec une équipe de France qui arrivait avec un tiers de blessés, quand même. Alors, c'est souvent le cas, vous me direz. Mais elle a fait le job. Franchement, elle a fait le job. Toute génération confondue, avec ces jeunes mecs qui arrivent et qui ont aussi faim que la génération d'avant. Avec cette nouvelle méthode de Fabien Galthié, franchement, j'avais un peu des réserves. Mais créer, mettre de l'émulation dans ce groupe, aller titiller les grands anciens qui pensaient peut-être qu'ils avaient une place au soleil, une place de sénateur, et leur montrer que non, bah les gars, faut y aller au charbon si tu veux la garder cette place. Eh bien, ça a marché parce que la génération qui arrive, les Boudéans, les Gaëtons, les Barrés et autres, Biel Biarré évidemment qui est un génie, eh bien, ont réussi à titiller les anciens et le résultat il est là. Et moi, je dis bravo à Galtier, je dis bravo à cette équipe de France et j'ai hâte que le tournoi commence parce que je me dis que même avec un déplacement en Irlande et en Angleterre, une équipe de France dans ce style-là et avec cette volonté-là, elle peut aller loin.
Ok, tu as repris goût à ton 15 de France, c'est ce qu'on comprend. Sarah Pitkowski.
Je suis sur la même lignée que Christophe. C'est la seule sélection de l'hémisphère nord qui a remporté tous ses matchs déjà. Donc ça, c'est une chose. Et puis on a vu des nouvelles choses. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an et demi, on a quand même une équipe qui s'est relativement transformé et il y a eu des prises de décision qui n'étaient pas évidentes à prendre du côté de Fabien Galtier. J'ai trouvé, alors avec mon œil qui est loin d'être un œil d'expert, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une meilleure conservation des ballons de la part de l'équipe de France, mais c'est surtout une qualité de défense des mecs qui veulent pas perdre et pourtant ils ont pas le ballon. Et on m'a souvent expliqué qu'au rugby, on peut gagner sans avoir le ballon. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a vu sur ces trois matchs-là. J'ai vu une stat, je sais plus qui l'avançait sur ces trois matchs. Deux tiers du temps, les Français n'avaient pas le ballon. Et pourtant, ils remportent ces trois matchs-là. Donc, je présume, de mon point de vue, qu'on est en train de monter en qualité, qu'on est en train de renforcer une équipe et que cette équipe, elle devient encore plus solide dans un secteur de jeu où pour autant, de temps en temps, elle était quand même très fragile. Donc, évidemment, je pense que comme tout sport, il y a des choses à améliorer. Mais je pense que c'est à saluer cette tournée d'automne. Enfin, je ne vois pas comment on ne peut pas saluer cette tournée d'automne.
Alors, il y a plein de choses positives.
Il y en a plus de positifs que de négatifs.
Oui, non, mais après, forcément. Si on veut rentrer dans l'analyse, il faut se projeter par rapport au tournoi. Parce que là, la tournée, c'est une transition entre le tournoi de l'an passé et le tournoi de ce qui va arriver. Effectivement, la dynamique est bonne, puisqu'on a gagné, donc tout ça est positif. Les choix forts de Fabien Galtier se sont révélés extrêmement payants, et je salue d'ailleurs son.
Est-ce que ça, c'était un pari de ton point de vue au début?
Un pari dans le sens où je m'attendais pas à ce qu'il prenne cette décision. Avant, il était plutôt conservateur. Aujourd'hui, il a montré qu'il était ouvert, qu'il n'avait pas peur de sortir des joueurs, d'en rentrer, des tauliers. Donc ça, c'est super par rapport à la dynamique, par rapport à l'émulation dont il parle d'ailleurs, et qui a fonctionné. Elle a très très bien fonctionné. On le voyait avec Olivo, qui a été exceptionnel.
Exactement. Donc, je suis sûr qu'Aldrit va revenir.
Non, mais il a créé une émulation. Et ça, c'était pas vraiment son fort. Et là, je dois saluer quand même ces choix qui ont été payants. Après, comme l'a dit Sarah, c'est une équipe de France clinique comme on la connaissait avant, un peu pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'elle est froide, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possession, mais à chaque fois qu'on a le ballon sur les turnovers, on est très fort au pied, on est très fort à la main. Ouais. Et là, on l'a vu hier avec des joueurs qui commencent à exploser. Biel Biarré, on ne l'attendait pas. Il y a deux ans, il était timide à la Coupe du Monde, ce n'était pas le même joueur. Aujourd'hui, on a des cracks. Thomas Ramos est en train de s'imposer à l'ouverture. Je me demande comment va faire Fabien Galtier pour le premier match du tournoi. On peut en parler, en débattre, mais ouais. Thomas Ramos me semble incontournable maintenant à ce poste. Il a été prodigieux. Enfin, moi, c'est presque inattendu ce qu'il a fait. Et puis la concurrence, les Gaëtons, Boudéan qui explose. Voilà.
Gabavillier qui revient à l'aide.
L'émulation et le réservoir.
Et puis, je dirais la force tranquille de cette équipe
Elle semble jamais.
S'affoler, douter.
Elle prend pas l'eau quand on revient. On revient sur le match de la Nouvelle-Zélande.
Elle gagne, mais si elle se donne les moyens de gagner.
Oui, bien sûr, mais c'est pas pareil.
Mais tu sens qu'ils sont jamais inquiets, ou en tout cas, tu les sens pas pressés, c'est-à-dire qu'ils sont calmes. Et tu sens qu'à n'importe quel moment, dans un sens ou dans l'autre, que le match peut s'inverser, mais il y a une sérénité qui est quand même assez impressionnante.
Julien Beneteau.
En fait, je pense que c'est vraiment la marque de Fabien Galtier et de son staff. Ce qu'il fait depuis 4 ans, c'est d'avoir une méthode très pragmatique et très clinique pour gagner. Et il a fait adhérer ses joueurs là-dessus et il le répète. Ça fait 4 ans quand même qu'ils ont 80% de victoire.
On appelait ça la dépossession.
Alors, pour essayer de tenter une explication, par rapport aux autres nations, toutes nations confondues, là, il travaille que 3 semaines.
Ouais, les autres, 3 semaines, ouais,
c'est beaucoup déjà.
C'est beaucoup, c'est que dalle. Les sudistes.
Par rapport à avant, c'est énorme.
Ah oui, oui,
mais bon, avant, il y a 2-3 ans, 4 ans.
Oui, avant Gatier, mais avant, on gagnait rarement contre les, mais c'est, contre oui, mais les donc, Blacks au mois de novembre ou contre les Sudaf au mois de novembre.
Depuis un temps, on prenait 40 points.
Je suis allé au Stade de France, exactement. Il a changé ça.
Oui, enfin, il n'a pas changé que ça. C'est la génération d'aujourd'hui qui est la meilleure génération
de tous les Français. Gatier, il travaille quand dans la durée? Il travaille pendant le tour. Parce que lui, il a tourné l'été. Le problème, c'est qu'il a pas son équipe.
Pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde.
Et la Coupe du Monde. Oui, mais la Coupe du Monde, en 2 mois, 3 mois, tu peux pas rattraper 4 ans. Si t'as pas bossé avec lui. Mais pendant un mois et demi, pendant le tournoi, il travaille. Parce qu'il a la continuité. Et la tournée d'été, nous, par rapport aux Anglais, par rapport aux Irlandais, par rapport aux Écossais, on n'a pas nos joueurs premium. Et
ça, malheureusement.
Et pour moi, si on veut vraiment passer un énorme cap, il faudrait qu'on ait notre équipe premium l'été. Parce que là, en 2025, il paraît qu'on va aller faire 3 tests
sans les premium
en Nouvelle-Zélande. Mais quoi de mieux que pour faire grandir Dupont, Ramos et compagnie et les faire passer dans une autre galaxie,
d'aller les jouer là-bas.
Mais comment on fait les Irlandais l'année dernière ou il y a 2 ans, ils sont allés gagner leur série de tests là-bas, ils n'avaient jamais fait dans leur histoire. Ça marque. On parle toujours de la Coupe du Monde, etc. Mais je suis désolé, dans le rugby, Denis, tu vas me parler. Quand tu fais le grand chelem dans le tournoi ou quand tu vas gagner une série de tests en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande, tu marques ta génération, tu marques et en plus tu progresses et tu fais grandir
ton groupe. Comment tu veux faire,
c'est impossible.
Avec le calendrier actuel, c'est
pas possible. Il est bien là le nœud du problème.
Pour le 15 de France, je pense que c'est un frein pour pouvoir peut-être développer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il les quitte au mois de mars, à la fin du tournoi, et il les récupère
au mois de septembre.
Il les récupère au mois de novembre, une semaine avant.
Fin octobre,
une semaine avant le premier test de novembre. C'est compliqué pour lui de mettre quelque chose en place.
C'est un des axes de progression de notre 15 de France. Ça va ravir les clubs. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard.
Oui,
moi, par rapport à ce que vous m'avez dit là en introduction, j'aimerais vous relancer.
Toi, t'es pas emballé.
Si, je suis emballé.
Mais... T'as regardé le match du PSG hier soir, non?
Non, j'ai regardé France Argentine.
C'est vrai, c'est bien.
J'avais un double écran. Voilà. Mais le grand écran sur France Argentine.
Ah, bien.
Attendez.
Il a DAZN, il a pris tous les abonnements.
On va continuer sur France Argentine tout de même, et j'ai cette question à vous poser parce que vous êtes quand même assez dithyrambique sur ce 15 de France. Est-ce que ces bleus là, est-ce qu'ils sont meilleurs qu'avant la Coupe du Monde? Je vous poserai la question dans quelques instants.
C'est une bonne question.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Denis Charvet. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Le zapping des GG, j'ai beaucoup d'informations à vous donner. J'ai le PSG, j'ai Roberto De Zerbi qui parle de la démission, ou plutôt de sa non-démission hier en conférence de presse. J'ai un coup de gueule dans le monde du rugby ou encore les frères Lebrun. Bref, vous me direz si ça vous intéresse ou non, ce sera dans quelques instants. Mais restons sur notre débat. Êtes-vous totalement emballé par ce 15 de France? Je vous propose d'écouter Antoine Dupont qui parle des axes de progression de ce 15 de France.
Sur plusieurs secteurs, je pense, ça dépend des 3 matchs de la tournée, mais on parlait de notre jeu offensif. Je pense qu'on peut avoir plus de consistance. On a nos cellules et tout ce qu'on travaille la semaine. On a du mal à le retrouver après le week-end, ce qui est un peu dommage quand on voit les qualités qu'on a, les armes offensives qu'on a. On a énormément défendu sur les 3 matchs. Il faut qu'on soit en capacité d'avoir plus de ballons d'attaque. Sur notre jeu au sol, je pense qu'on peut être meilleur. Sur notre jeu au pied, je pense qu'on peut être meilleur aussi. Mais encore une fois, on gagne les 3 matchs, donc on peut quand même se savourer et apprécier les 3 résultats.
Et voilà, savourer, mais il vous parle de tout ce qu'il y a encore à faire. Hein.
Antoine, l'entraîneur, c'est invraisemblable. C'est une analyse, mais incroyable. Non, mais il est.
Faut sortir du match, on rappelle. Hein. C'est juste quelques minutes après. Hein.
Non, mais il est incroyable. On l'a vu à la mi-temps de la semaine dernière où il parle, il a des mots, mais des mots justes. Il est entraîneur né. Tous les demi-mêlés sont souvent entraîneurs, mais lui, il est déjà.
Est-ce que ce 15 de France est meilleur que celui d'il y a un an?
Ah, d'il y a un an, pas
alors,
forcément.
D'il y a un an, il est moins bon que celui d'il y a de 2022, quand on fait le grand chelem, où là, je pense que la génération Dupont était à son summum. Ensuite, elle a baissé un petit peu de pied, malheureusement, jusqu'à la Coupe du Monde. L'année 2023 a été, le tournoi a été une réussite, mais pas exceptionnelle. Et cette Coupe du Monde a coupé un peu l'herbe sous le pied de cette équipe. Elle est moins bonne qu'en 2022, mais elle a sans doute des axes de progression un peu plus importants. Et je trouve un réservoir bien rempli parce que tous les jeunes qui étaient les champions du monde des moins de 20 ans arrivent aujourd'hui en équipe de France. Et franchement,
c'est une période charnière, en fait. Il y a des jeunes qui arrivent, qui poussent, qui ont un talent fou. Boudéan, Gazzotti, Gailleton, et puis il y en a plein derrière qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Le centre de Toulouse, comment il s'appelle?
Coste,
qui a un talent fou. Il y a des jeunes qui vont arriver, mais je pense que elle est pas meilleure ou moins bonne. Je pense que c'est dans la continuité, en fait. Il me semble, hein, moi, tu regardes les joueurs qu'il y a aujourd'hui qui la composent, c'est pratiquement les mêmes, hein. À part deux ou trois jeunes qui sont arrivés, que Boudéan s'est imposé.
Oui, mais en la fait, question, c'est est-ce que vous êtes encore plus confiant qu'en 2021 quand on préparait la Coupe du Monde
le tournoi, là, 2025, qui va arriver, parce qu'il va arriver très vite. Premier match le 31 janvier, donc ça veut dire qu'on peut imaginer qu'ils vont se réunir le 15 janvier. Oui. Donc il va donner une liste début janvier. Et en fait, moi, ce que j'espère, c'est que là, sur le mois et demi qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Il va y avoir le début de la Coupe d'Europe, le retour du Club 14.
Les terres dures, le retour d'Entamac.
Voilà, il va y avoir Entamac qui va revenir. Bah, contrairement à Denis, quand on est sans Galtier, je pense qu'il va remettre Entamac en 10 et il va mettre Ramos en 15. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est parce qu'il a toujours prôné la continuité, il lui a fait une confiance.
Ouais, mais ça a changé là quand même. Il a changé de méthode là, Julien, sur la tournée.
Oui, non, il n'hésite plus à faire des voyages.
Absolument. Et aujourd'hui,
mais Entamac, c'est à la fois un taulier, à la fois un jeune, donc il a jamais déçu
en équipe de France.
Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que s'il n'y a pas trop de blessés, qu'il n'est pas obligé de refaire beaucoup de turnover à des postes clés et de travailler dans la continuité de cette tournée de novembre, justement, je pense qu'avec les quelques semaines de préparation avant le tournoi et avec les premiers matchs du tournoi, là, l'équipe, ils vont peut-être pouvoir essayer de mettre en place, de rajouter un peu quelque chose, tout ce que parlent les axes d'amélioration dont parle Dupont. Ils vont peut-être être capables de le mettre en application sur ce tournoi.
Et notamment pour aller gagner et en Irlande et en Angleterre, qui sont vraiment des tests exceptionnels.
C'est les limites de cette équipe aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est les limites dans le sens où si tu veux vraiment aller t'imposer en Angleterre et en Irlande, il faut effectivement, comme le dit Antoine, être plus performant offensivement et prendre plus d'initiatives. Ce qu'ils ont, j'ai l'impression qu'il dit qu'on a été un peu contraint contraint par les adversaires, sûrement aussi, je sais pas.
Mais on peut quand même avoir une forme de confiance. Cette transition là qui s'est passée sur cette Autumn Cup, elle est quand même réussie. Donc ça laisse présager quand même. Ça lui donne des certitudes. Ouais. Cette équipe, elle a forcément pris des automatismes. Et comme tu le dis, Julien, si en plus il recompte, et ces joueurs-là ne sont pas blessés, on peut les retrouver mi-janvier pour le début du stage. Les automatismes qu'ils ont pris là, tu les gardes en un mois. Oui, tu les retrouves pas dans six mois.
Quand tu vois l'équipe de France, tu as l'impression qu'il y a encore sur la pédale.
Moi, je sais pas, mais
c'est
pas,
c'est l'impression que tu te dis, elle peut aller vraiment à un autre niveau et devenir la nation incontournable.
Ouais. C'est quelque chose de rassurant.
Oui, enfin, je veux dire, c'est positif.
En fait, les lignes arrière, il a quand même beaucoup de certitudes. Sur les avant, je sais pas trop, mais sur les arrières. Aujourd'hui,
je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de certitudes sur ses centres.
Ah bon, bah regarde, imagine là il a Moefana qui fait coup. Imagine un des deux est blessé, il a fait jouer Gaëtan, il a confiance en Gaëtan maintenant, donc il peut le remplacer. Aux ailes, Penaud était malade, c'est l'un des meilleurs avec Bielbiaré. Villiers est revenu, il a été performant à l'arrière. Il peut faire jouer Ramos, il peut faire jouer Bureau, il peut faire jouer Barré. Il sait qu'avec les trois, ils ont assuré les mecs. C'est des gages de confiance, ça, pour un staff et pour une équipe.
Mais il y a un réservoir qu'il n'y a jamais eu en équipe de France. C'est vrai, quand tu changes un joueur par un autre, ça ne change pas grand-chose. On l'a vu avec Barré hier qui a fait un match incroyable.
Tu secoues l'arbre, t'as 15 demi-mêlées qui tombent quasiment du même
niveau. Pour être titulaire au centre de l'équipe de France, ça ne va pas être très fort.
Je suis Fabien Galtier aujourd'hui. Je serais très confiant. Et en même temps, il a du travail. Il a du travail de progression avec une équipe d'une génération qui est exceptionnelle. Donc tous les voyants sont ouverts quand même.
Ok. Et on n'a pas encore parlé de Jalibert. Hein. Est-ce qu'il pourrait revenir en bleu? Ça, c'est pas forcément sûr. Hervé nous appelle au 32-16. Bonjour Hervé.
Oui. Bonjour à tous.
Moins dithyrambique, moins enthousiaste que la bande, toi, visiblement.
Bah, c'est pas ça, c'est que moi je suis content. La première chose, c'est que l'équipe de France a retrouvé son public. Et je pense que c'est important, parce que derrière, tout le monde avait été quand même très déçu de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un premier point. Je parlais pas de Jalibert, étant supporter de l'UBB, on va le laisser tranquille aller à Vannes, reprendre tranquillement et faire l'hiver dont on a besoin en club. Par contre, je suis désolé, j'essaie de regarder avec un œil un peu plus reculé. Aujourd'hui, mis à part un tournoi qu'on a gagné il y a 2-3 ans, on n'a pas gagné, quoi. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que, oui, très bien, on a augmenté notre niveau de jeu, oui, on est beaucoup plus plaisant à voir, mais je veux des titres. Moi, je voudrais qu'on fasse un bilan à la fin du tournoi cette année, le tournoi qui arrive, et si on est capable de gagner 3 fois à l'extérieur et qu'on est capable de s'imposer en Europe, dans ce cas-là, on va pouvoir...
Sur ce que t'as vu, est-ce que tu penses qu'on peut figurer dans le tournoi, aller gagner le tournoi, voir le grand chelem?
Mais je crois qu'Hervé, il n'a pas envie d'être champion du monde des matchs amicaux.
Non, mais je projette sur le tournoi.
Je suis d'accord avec Hervé, il faut gagner les tournois.
Je veux dire, Julien Bento a clairement expliqué et exprimé les choses qui étaient vraiment pour moi évidentes. On a été très bon il y a 3-4 ans où on survolait tout le monde. On a eu un creux à la Coupe du Monde, c'est assez vrai. On fait pas les tournées à l'extérieur. Denis, les matchs de légende, ils se sont faits en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, etc. On les joue pas l'été. Et derrière, ben, on gagne à domicile. C'est le minimum. Mais si on perd contre la Nouvelle-Zélande, là, sur la série, qu'est-ce qu'on dit après? On sait pas.
Oui, mais tu n'auras pas de référence parce que tu n'auras que des joueurs, tu n'auras pas les joueurs premium. Donc, cette tournée en Nouvelle-Zélande n'aura aucun intérêt, si tu veux. Donc, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec Julien. Je pense
on
que
découvre des jeunes. C'est bien, mais derrière,
c'est grave de pas aller jouer avec les premium en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est sûr que.
Mais c'est dans l'adversité, dans n'importe quel sport, vous êtes tous des sportifs de haut niveau, c'est dans l'adversité. On a gagné la Coupe Davis dans l'adversité. On a gagné au foot. Rappelez-vous, on était champion du monde des matchs amicaux. On a été champion du monde et à partir de là, on s'est positionné différemment. La France a besoin de titres au rugby, quoi. À un moment donné, voilà, on donnera du crédit véritablement à Fabien Galthié qui a une quantité de joueurs incroyables de talent dans tous les clubs. On lui donnera véritablement la médaille quand il aura véritablement gagné des titres.
Et ben voilà, c'est dit.
C'est ce que j'attends.
Eh ben merci beaucoup Hervé pour ce témoignage. Reste avec nous à partir de 11h, on reparlera du 15 de France. On se demandera si cette tournée d'automne a fait oublier, elle était catastrophique du 15 de France et cette tournée en Argentine, voire plus largement cette année 2024. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai envie de clore ce débat là ce matin avec cette phrase de François qui nous envoie un petit message via le Direct Studio qui me dit la vraie performance, c'est d'avoir gagné un test match en pleine semaine de Beaujolais nouveau. Bravo les rugbyman. Un peu du monde que j'avais goûté. De mal. Bravo François. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG avec beaucoup de choses à vous dire, le PSG, l'OM ou encore les frères Lebrun. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h46, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. Restez bien avec nous à partir de 10h. Nous allons revenir sur les adieux de Raphaël Nadal. Vous me direz si ça a été réussi ou non. Et puis on se posera plus largement cette question de savoir si une légende peut réussir ses adieux. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
L'actualité de la semaine de ces dernières heures, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est les frères Lebrun en finale du double au Japon. On s'en fout pas. Denis Charvet.
Non, je m'en fous pas.
Julien Benneteau.
On s'en fout pas.
Sarah Pitkowski.
On s'en fout pas.
Ok, Christophe Cessieux.
J'adore les frères Lunettes.
J'adore les frères Lunettes. Très bien. Alexis et Félix, donc les frères Lunettes. Les frères Lebrun se sont qualifiés hier pour la grande finale du double des finales du circuit WTT au Japon. La grande finale aura lieu ce midi, midi 45. Une grande première dans l'histoire du ping français. Les frères Lebrun affronteront la redoutable paire japonaise Shinozuka Togami. En jeu, la place de numéro 1 mondial. On retrouve sur place au Japon Léna Marjac. Bonjour Léna.
Salut JC, salut à tous.
Mais c'est vrai que ça peut être encore un grand moment pour le ping français.
Oui, parce que c'est une finale pour entrer tout simplement dans l'histoire. Alors déjà, en devenant la première paire française à remporter le WTT Finals, donc c'est un tournoi qui regroupe les 8 meilleures paires de doubles de la saison. Et en finale tout à l'heure, donc Félix et Alexis seront opposés au duo japonais Suzuki Togami et Hiroto Shinozuka, classé 6e paire mondiale. Des joueurs que les Français ont rencontrés il y a quelques semaines, c'était en Chine, et les Lebrun s'étaient imposés. Alors évidemment, Alexis a envie d'aller chercher une nouvelle belle victoire aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, super excité de jouer une finale ici, ça va être la finale des finales, donc c'est super cool de pouvoir jouer ça en double ensemble, et on espère qu'on va pouvoir faire un aussi bon match que contre ST et Flo pour aller chercher ce titre. On produit un très bon niveau depuis un petit bout de temps, donc c'est cool et j'espère que ça va continuer pour la finale. Ce serait super cool de finir cette année incroyable par un nouveau titre. C'est vrai que 2024, c'était une année vraiment folle pour tous les deux, et si on peut la finir en beauté comme ça, ça serait incroyable.
Et une saison folle, ça c'est vrai, médaille olympique, titre européen en simple pour Alexis, mais aussi en double avec son frère, et puis la victoire historique de Félix au WTT Champions de Montpellier, l'équivalent d'un Masters 1000 au tennis. Alors une dernière victoire ici conclurait de la meilleure des manières cette saison extraordinaire, surtout que les deux frères pourraient marquer encore plus l'histoire du ping tricolore s'ils s'imposent tout à l'heure. Ils deviendraient numéro 1 mondiaux en double homme, et jamais, jamais une paire française n'a atteint ce classement dans l'histoire.
Merci beaucoup Léna Marjac en direct du Japon, cette grande finale, c'est à 12h45, c'est à suivre évidemment sur RMC. Juste une observation rapide, ça fait 3 mois maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés, on s'est dit bon, certains champions vont retomber un peu plus dans l'anonymat. Les frères Lebrun, on en parle chaque semaine.
Ouais, parce que chaque semaine ils font des choses exceptionnelles et qu'ils font des choses qui n'ont pas été faites dans leur sport en France. Là, c'est les premiers
mais c'est parce qu'on le diffuse aussi, c'est-à-dire que... Oh.
Il y a les résultats, mais on oui, ils gagnent, mais on a mis, il y a eu toute une, les médias ont commencé aussi à les suivre, on voit leurs matchs, et donc il y a un cercle vertueux qui fait qu'aujourd'hui le ping devient un sport à suivre.
Mais Julien, toi qui étais un spécialiste du double, ça doit te faire drôle de voir que le ping-pong, on parle de joueurs.
En fait, c'est marrant parce que pendant le sujet, c'est ce qui est en train de me dire. En fait, ils sont l'équivalent de nous, ce qu'on appelle le Masters.
Ouais. Oui.
Ils sont en finale du Masters. Mmh. Il n'y a jamais une paire française qui a gagné le Masters. Nous, Herbert Mahut, moi, j'ai eu la chance de faire le Masters une fois. On sait que c'est exceptionnel, mais j'ai fait que demi. Eux, ils peuvent devenir numéro un mondial de la spécialité. En plus, le double au tennis de table, c'est une discipline à part entière.
Le double, il est quand même moins considéré.
Dans les pays anglo-saxons, non.
C'est moins considéré.
Les Américains, les Anglais, les Australiens, non. Mais en France, oui. Et donc, ce qu'ils font, ils sont en train de banaliser l'exceptionnel.
C'est à suivre sur RMC, mais également, si vous voulez les voir, les admirer, les frères Lebrun, c'est sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, également la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, c'est à 12h45. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le coup de gueule de Christophe Lossuc, l'entraîneur de l'UBB. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe,
je ne m'en fous pas du tout.
Moi, j'ai pas suivi, donc je passe mon tour.
Tu passes ton tour.
J'ai un peu plus suivi que Sarah, mais moins bien Christophe.
Je ne demande pas si vous avez suivi, je vous demande si ça vous intéresse.
Je vais écouter Christophe.
J'ai lu l'équipe aujourd'hui, donc j'ai suivi.
Alors, c'est à propos de la décision de la Ligue nationale de rugby, s'il vous plaît, je reprends la main. Ne parle pas sur mon lancement, sinon tu vas vraiment pas suivre cette information. C'est à propos de la décision de la Ligue nationale de rugby. Vous le savez, ce week-end, c'est un week-end de doublons avec le 15 de France, le top 14. Et les joueurs qui ont joué hier ne peuvent évidemment pas jouer avec leur club. Ça, c'est normal. Ce qui l'est moins, ce sont les 5 joueurs réservistes privés donc de jouer ce week-end avec leur club, comme Maxime Lucu pour l'UBB. Je vous propose d'écouter Christophe Lossuc hier en conférence de presse.
Je trouve un peu fort de parler de manque d'équité en sachant qu'on est quand même lourdement impacté par ces doublons. Les doublons qui sont quand même une particularité du rugby français. Donc le problème d'équité, il est quand même tous les ans bafoué dans le rugby français. On n'a juste pas le droit de faire jouer des joueurs à nous, qui sont salariés chez nous, alors que l'équipe de France nous les a libérés. En quoi le fait de faire jouer Max Lucu ou Max Lamotte avec nous pénalise l'équipe de France? C'est complètement aberrant. Pour moi, c'est complètement aberrant, mais... Il y a encore visiblement des choses à la LNR qui fonctionnent et qui prouvent que la LNR n'est pas un organisme complètement indépendant et qui prend ses décisions comme un grand garçon.
Ça y est, on est reparti pour la guéguerre entre le 15 de France
non,
et les clubs.
Non, mais la décision qui a été prise par la LNR et sans doute en accord avec l'équipe de France, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est-à-dire que Lucu, il a plus joué depuis un mois avec son club en équipe de France. Il a fait que des entraînements et là, alors qu'il est dispo et qu'il a sans doute qu'il est plein d'énergie, on décide de ne pas lui permettre de jouer, tout comme Aldrit, tout comme les autres. Mais encore ceux qui ont joué 2-3 matchs de cette équipe de France, pourquoi pas? Mais des joueurs comme ça. Et quand on parle de
oui, mais ils ont mis en place un règlement.
D'équité. Mais l'équité pas, avec c'est, quoi? Je veux dire, l'équité, Toulouse qui donne 12 internationaux, Bordeaux qui en donne autant par rapport à d'autres clubs. Bah, l'équité, elle n'est pas respectée non
mais
plus.
Mais tu crois que Toulouse est content?
Non, mais de pouvoir récupérer.
Non, mais moi, je comprends ce coup de gueule, parce que je ne comprends pas l'inverse, moi. Je comprends pas pourquoi on ne libère pas. Voilà, donc lui, il se dit impacté parce qu'effectivement, il hormis, il manque ses joueurs qui sont disponibles. Je ne sais pas pourquoi on ne les libère pas. Moi, je n'ai pas de réponse de la part de la Ligue et de la Fédération. J'aimerais bien avoir une.
Mmh. Ok, donc c'est un quoi qu'à gérer, ça. Peut-être pour
les réservistes. Je crois qu'ils sont vachement sur le temps de jeu, etc.
Oui,
etc.
Voilà. Oui,
mais bon, là, ils sont réservistes, ils n'ont pas joué. Ils sont même pas sur la feuille de match. C'est-à-dire qu'au dernier moment, ils peuvent rentrer s'il y a un blessé à l'échauffement. Ce n'est pas le cas. Ils ont pas joué de la semaine, ils ont une semaine de repos entre guillemets avec de l'entraînement, donc ils sont aptes physiologiquement et physiquement.
Dernier match de Lucu, 2 novembre. Ça fait 21 jours qu'il a pas joué. 3 semaines. C'est quand même énorme.
À jouer. Effectivement, comme dit Denis, il faudra avoir une réponse. Il doit y avoir certainement une raison de la part de la fédération ou de la part de la Ligue.
Moi, je pense qu'ils ont mis en place un règlement, tout simplement, et que ce soit Pierre-Paul Jacques.
Mais peut-être que ce règlement pour un dernier match de tournée peut être à revoir. Pour le deuxième match, on pourrait s'attendre à ce que les joueurs restent avec le 15 de France et que ne puissent pas jouer avec leur club. Pourquoi pas, mais le dernier match.
Mais c'est pas un couac. Je crois qu'ils vont s'entendre, ils vont arriver.
Ou alors, tu décides de décaler un peu la journée de top 14 au lieu de la faire le samedi. Tu la fais toute le dimanche.
Mais non, tu les fais jouer dimanche.
Mais oui, mais
tu le sais très bien.
Alors tu trouves des solutions. Ils en trouvent jamais.
Voilà. Allez, rapidement, un dernier petit son à vous faire écouter, c'est Roberto De Zerbi qui ne compte pas démissionner. On s'en fout pas, Christophe.
Je m'en fous.
Ok. Ça rapide, Kostki.
Idem.
Idem.
Ouais.
Ah, même toi, tu t'en fous.
Oui, c'est bon.
Je m'en fous, j'ai pas démissionné. Ah,
voilà, vous voulez pas écouter Roberto De Zerbi, c'était incroyable hier.
Parce qu'il a dit qu'il avait pas démissionné du Shakhtar Donetsk quand Poutine a balancé les bombes. Ah bah et voilà. Que là, il va rester à l'OM. Il
manquerait plus que tu nous fasses un débat, non, genre, sur Nasser et Luis Enrique
derrière. Il a signé pour un projet de 3 ans, 11 journées de championnat, il va démissionner. Alors, restons sérieux.
C'est les guignols, là.
Allez, tu repars avec tes billes, tu rentres à la maison.
Je vous donne une autre information. Sachez que le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 hier face à Toulouse. On reparlera du PSG à 10h30, donc restez bien avec nous. Et puis, dernière information à vous donner. Là, je vous demande pas si ça vous intéresse, mais ça vient de tomber. C'était tôt ce matin, le Grand Prix de Las Vegas. Sachez que Pierre Gasly a terminé 3e.
Qui est en pole position?
C'est Russell en pole position.
T'as mis dans l'oreillette.
Verstappen est devant Lando Norris.
Je vous donne toutes les informations.
Le Grand Prix, c'est demain matin à 7h. Je vous donne toutes les informations. Je suis béton sur le sujet. Vous pouvez y aller. Et monsieur, je n'ai pas d'oreillette, je n'ai qu'un casque. Ce qui change tout. Voilà.
C'est-à-dire qu'il a deux oreillettes.
En tout cas, Pierre Gasly et les Alpines pour cette 3e place des qualifications.
Des super.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Une légende peut-elle réussir sa sortie? On se posera la question. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.